Les gars comme Bobby Witt Jr., là, Eli De La Cruz, puis c'est ça l'avenir du baseball actuellement. Puis on en voit de plus en plus dans chacune des équipes. T'sais, avant, tu pouvais les compter sur les doigts d'une main, là, ces joueurs. Là. Ouais. Mais là, chaque équipe en a deux et trois. Là.
Marc, tu juste une petite parenthèse. C'est pas l'avenir, c'est le présent du baseball. C'est ça maintenant. Là.
En jeu! Deuxième prise, compte complet.
Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balle. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à compte complet, on est à la fin du mois de mars, ça s'en vient, on est à quelques heures du début de saison. Dans la Ligue américaine, la Ligue nationale, il y a deux matchs qui ont été joués au Japon, mais on s'entend que c'est cette semaine que ça commence. Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. Marc, on va commencer par parler, ce qui touche les amateurs, c'est l'Est américaine, des Blue Jays. Contrat, prolongation pour Alejandro Kirk, le receveur que tu as critiqué à de nombreuses reprises au fil des années. Marc, on va être bien honnête. Mais quand tu regardes un peu son profil, puis tu compares à l'ensemble des receveurs du baseball majeur, on est obligé d'admettre qu'il est dans la bonne moitié, et je te dirais peut-être même dans le bon tiers des receveurs dans le baseball majeur, quand tu regardes l'ensemble de son œuvre.
Ben écoute, moi, là, ce que je critiquais, Alain, là, pour employer le mot que tu as utilisé, c'est que je critiquais le fait qu'on le mettait comme dans le cœur de la formation du rôle offensif. Mm-hmm. Alors qu'on sait que Kirk, est souvent frappe dans les doubles jeux. C'est ce qu'on appelle dans le jargon là, un rally killer. Là, c'est, excusez l'expression, mais le genre de gars qui vient. Alors, tu sais, il faut être capable de bien, selon moi, le placer dans un rôle offensif. Tout ça pour dire que effectivement, de toute évidence, avec le départ de Jansen l'année dernière, il devenait le numéro un. Surprenant, je sais pas si c'est le bon terme de dire surprenant, mais tu sais, Alain, que c'est seulement le troisième joueur que l'organisation Shapiro-Atkins offre une prolongation de contrat. Je parle pas de signer un joueur autonome à long terme, là. Je parle d'une prolongation de contrat d'un joueur qu'on a actuellement. Et ça fait quoi, 9 ans là, que ce duo-là? Fait que, je sais pas, est-ce que c'est une nouvelle tendance? Est-ce qu'on va être prêt à faire ça? Toujours est-il qu'on s'est même fié un peu au contrat de Sean Murphy avec les Braves. Mm-hmm. Pas une mauvaise idée de commencer à regarder ce que les Braves ont fait au cours des dernières années, puis peut-être essayer d'imiter ça. Mais ça reste un poste-clé, Alain. La fameuse ligne du centre, bien, ça inclut le receveur, joueur de deuxième but, arrêt court, champ centre. Souvent, lorsqu'on était solide à ce niveau-là, évidemment, t'es dans la bonne direction. Donc, bien heureux que ça soit fait. Par contre, le second de Kirk, ça peut devenir, je pense que les Blue Jays pourraient aller, peut-être chercher un vétéran. Je sais que James McCann a finalement signé avec les Braves, là, mais il y avait quelques... Mais pour le cas, le dossier de Kirk, c'est réglé, c'est une bonne chose, on a notre receveur. Et il faut donner aussi à Kirk les lanceurs aiment lancer à Kirk. Il est un des ceux qui cadre les tirs. Je sais qu'avec la zone de prise éventuellement là, électronique, on l'a vu au camp d'entraînement, il a d'ailleurs été très bon lorsqu'il a demandé une contestation, si vous voulez. Là. Alors Kirk a des qualités, certes, absolument, puis je pense que c'est important de le garder à long terme. Là.
Il a juste 26 ans, Marc. Ça, c'est un autre aspect. Donc, il rentre potentiellement dans les meilleures années de sa carrière. Je lui trouverais peut-être un responsable de conditionnement physique, mais ça, c'est un dossier, Marc. On ne changera pas sa morphologie de A à Z. Il y a peut-être un peu de travail à faire de ce côté, à mon point de vue. Là. Dans un poste de receveur qui est très exigeant pour les articulations, donc, c'est peut-être la seule inquiétude, mais il y a 26 ans. Donc, tu ne rentreras pas à la fin de son contrat dans les années 35-36 ans.
Exact. C'est peut-être avantage. C'est pour ça que je dis que souvent, Les Blue Jays n'ont jamais agi de la sorte, Alain, de signer un contrat qui est encore admissible à évidemment, à l'arbitrage ou sous contrôle de l'organisation. Donc, est-ce que c'est un petit pas en avant? Est-ce que ça va annoncer d'autres choses éventuellement? On verra bien.
Écoute, tu parles de la ligne de centre. Il va falloir travailler là-dessus chez les Blue Jays de Toronto, Marc. Au deuxième but, on est correct. L'arrêt-court, on sait ce qui va arriver. Chance centre, c'est pas déterminé. Mais puisqu'on parle de chance centre, Miles Straw fait l'équipe. De même que Rodon, qui a eu le meilleur sur Barger. Dans le fond, ça se décidait entre ces deux-là. Barger qui a quand même créé une bonne impression lors de son passage, mais Rodon a très bien fait au camp d'entraînement. Puis on en a parlé, Marc, la semaine dernière. Rodon qui a très bien fait partout où il est passé. Il a 25 ans, c'est pas un jeune de 22 ans, il est arrivé des universités, choix de troisième ronde. Donc, c'est le moment là d'essayer de voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre, Rodon. Tu commences la saison, t'es pas sûr qui est ton voltigeur de centre. T'es-tu inquiet?
Non, parce que ton voltigeur de centre devrait être Varshaw, puis Varshaw va revenir au jeu quand même, rapidement. Ouais. Miles Straub, écoute, Alain, on connaît le contexte, là. On a ramassé de l'argent international, puis finalement, on avale un peu son contrat, là, mais forcé d'admettre qu'il y a eu un bon camp. Mais moi, j'aime ça, des joueurs qui forcent l'organisation à te prendre, à te garder. Évidemment, le cas Varshaw a aidé Miles Straw. On verra au début du mois d'avril qu'est-ce qui va se passer avec tout ça, mais ça reste que je trouve ça le fun de voir un gars comme Rodon arriver au camp d'entraînement. Mais je dirais pas mêler les cartes parce qu'on savait qu'il était un bon frappeur, mais c'est d'arriver puis de montrer ce que tu es capable de faire contre des lanceurs du baseball majeur, faut-il le dire. Là, c'est pas toujours le cas, mais ça reste que le camp d'entraînement. Tu as toujours besoin d'un gars qui peut frapper. Alors, belle histoire dans le cas de Rodon. Il va certainement aider cette équipe-là. C'est bon de savoir que tu en as d'autres qui peuvent venir donner un coup de main. C'est pas des décisions faciles. Moi, je suis convaincu là que tu sais, on s'est questionné beaucoup. Mais à la fin, tu sais, à la fin de la journée, ça te prend tes meilleurs 26 possibles en quittant le camp d'entraînement. Je pense que les Blue Jays ont pris les bonnes décisions à ce niveau-là.
Oui, puis dernière chose, c'est les Blue Jays. Jacob Barnes qui a fait l'équipe. Je pense que c'est de la profondeur davantage en relève, je pense, qu'on s'est ajouté là, chez les Blue Jays.
Exact. Et peut-être on n'a jamais assez, Alain. Le défi dans le baseball moderne, là, c'est pas juste au niveau des Blue Jays, ce sont les lanceurs partants. On le sait, Alain, maintenant, là, c'est 5 manches. Faut pas oublier que si c'est 5 manches pour les partants, t'en as 4 autres à lancer. Là. Puis tu peux pas tous les soirs demander toujours au même gars. Donc, ça te prend une profondeur en relève. Comme j'ai mentionné, je pense que les Blue Jays ont sélectionné, en tout cas selon moi, suite évidemment au camp d'entraînement, les joueurs qu'il fallait là, pour amorcer la saison.
Oui, puis si je peux terminer, Marc, Bolden Francis avait pas des bons chiffres, mais son dernier départ, je pense, a calmé bien des choses. Camp d'entraînement, c'est le temps de travailler certains trucs. Et à son dernier départ, il était très bon, Marc. Je pense que ça va peut-être calmer un peu les critiques.
Oui, effectivement, il faut faire attention. Fait qu'en entraînement, Alain, tu as tout à fait raison de dire. Il y a des joueurs qui essaient des nouveaux lancers, qui essaient de changer peut-être un aspect mécanique. Alors, à la fin de la journée, il faut que les gars soient prêts. Tu sais, Alain, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Moi, je pense que si Scherzer peut en donner un petit peu, mais que Francis ressemble moindrement au gars de l'année passée, les Blue Jays peuvent avoir une des bonnes rotations quand même dans la Ligue américaine si tout le monde lance à la hauteur, évidemment, de son talent.
Bon, parlant de lanceurs, chez les Rays, une tuile avant que la saison commence. Shane McClanahan, on dit que c'est pas sérieux. C'est un air qui serait qui ennuierait, en fait, McClanahan. Donc, pas relié au coude. Mais on est prudent, donc va rater le début de la saison. C'était lui qui était supposé être le partant numéro 1. Le partant du match d'ouverture, c'est Ryan Pepiot qui va avoir cette tâche. Il y a quand même un peu de profondeur chez les Rays, Marc. Ça, c'est une boîte à surprise en vue de la prochaine saison. Mais tu remplaces pas un Shane McClanahan par un lanceur que tu as comme sixième partant potentiel.
Non, c'est sûr. Puis moi, ce que je dirais des Rays, c'est que sur papier, là, c'est très, très bon au niveau des lanceurs partants. Mais je trouve que c'est très fragile, Alain. Des gars qui reviennent de blessures importantes, tu sais jamais ce que ça va faire. Regarde, dans le cas de McClanahan, effectivement, on a eu très peur, mais il commencera pas l'année. Puis là, on va être extrêmement prudent, lui qui revient de l'opération de type Tommy John. Donc, Ça va être, écoute, ça va être, selon moi, Alain, ça va être un été de rempli de défis avec les Rays de Tampa cette année pour toutes sortes de raisons. Le fait, évidemment, qu'on joue en Floride, dans un stade extérieur, puisqu'on va jouer au stade de camp d'entraînement des Yankees. Mm-hmm. La température va jouer un rôle. Les dimensions du stade sont différentes, évidemment, qu'à Tampa. Les joueurs blessés. Le calendrier des Rays. Écoute, on est obligé de modifier le calendrier en raison de d'où ils se retrouvent en Floride pour la saison. Écoute, les deux derniers mois de la saison, on va jouer sur la route. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est peut-être un été plus difficile là, pour les Rays. J'espère que la nouvelle de McClanahan, effectivement, va être bonne et que ça va être seulement un début de saison retardé dans son cas.
Ouais. Gunnar Henderson avec les Orioles. Marc, les Orioles ont plein de talent, ils ont plein de la profondeur et tout ça, mais c'est probablement le plus gros morceau de l'équipe. Tu joues à l'Erico, c'est ton meilleur frappeur. T'espères juste que ce ne soit pas trop long.
Oui, exact. Puis effectivement, tu l'as bien dit, Alain, on a beau avoir du talent dans cette équipe-là, ça va frapper assurément, mais ça reste que le gars sur qui tu comptes, il n'est pas là pour commencer la saison. Est-ce que ce sont les Blue Jays qui vont en profiter, eux qui amorcent la saison à Baltimore? Mais ça reste que tu veux pas. En fait, il y a deux choses là-dedans. Tu veux pas que ça retarde, mais en même temps, tu veux pas non plus l'amener trop tôt, prendre ça toute la saison. Donc, c'est deux façons de voir les choses, mais c'est sûr que tu veux commencer l'année avec ta formation numéro un et ça sera malheureusement pas le cas avec les Orioles.
Et je vais te parler de calendrier, Marc. Les Yankees commencent trois de leurs quatre premières séries. En fait, c'est plus que ça, c'est quatre de leurs cinq premières qui ont des équipes de la Ligue nationale. on va affronter Pittsburgh, on va affronter Arizona, Milwaukee, San Francisco. Ce sont des aléas du calendrier un peu. On va se retrouver sur le chemin des Diamondbacks qui, Marc, pourrait être une des grosses surprises, moi, cette année. Je pense qu'ils ont des chances de devancer Dodgers, mais ça, on pourra en parler de toute façon. C'est cette semaine qu'on fait nos prédictions et nos analyses là, à RDS. Mais c'est un début de saison un peu bizarre là, pour les Yankees de New York. Je ne sais pas qui fait le calendrier, là, mais...
c'est ce qui pourrait les favoriser, là, tu sais, parce que bon, même si Pittsburgh, on va devoir affronter un gars comme Skins, évidemment, ça reste un calendrier qui, selon moi, est un petit peu plus favorable aux Yankees, mais tu sais, à la fin de la saison, il faut que tu en joues en 62. C'est juste que si tu commences par, ça peut te donner un élan pour la suite des choses, alors que si tu commences, tu sais, un calendrier qui est très difficile, puis que là, tu te retrouves avec, je sais pas moi, 4 victoires, 10 défaites, et là, tu as du rattrapage que tu fais pendant un petit bout de temps. Ceci étant dit, t'as raison de mentionner les Diamondbacks. Et les Diamondbacks ont un peu retardé le départ de Corbin Burnes pour qu'il affronte les Yankees. Je sais pas si c'est la raison principale, Alain, mais ça reste que c'est un drôle d'hasard. Alors, Burnes qui devrait affronter les Yankees. Donc, Burnes qui n'amorcera pas. On en a parlé du fameux sujet du lanceur du match d'ouverture. Même les Cubs, là, peut-être un match d'ouverture, bien évidemment, les Cubs ont déjà joué des matchs, mais c'était évidemment au Japon. Ouais. Mais là, on s'assure d'avoir peut-être notre meilleur lanceur pour le match d'ouverture à domicile. Fait que c'est correct. Okay. Chaque organisation a ses choix là-dessus. Ouais. Moi, j'ai absolument aucun problème avec ça, surtout si les joueurs eux-mêmes n'ont pas le problème avec ça.
Oui, et juste en passant, je parlais des Pirates contre les Yankees. Ça se pourrait que Skins ne lance pas contre les Yankees. C'est pas parce qu'on veut le soustraire des Yankees, c'est juste que et ça se peut qu'il y ait déjà deux départs dans le corps puis que ce soit entre ces deux.
C'est vrai.
Donc, les Yankees peuvent dire ouf de ce côté-là. Marc, c'est le temps de la carte de la semaine, qui est une présentation de cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. On jette notre dévolu sur une carte de la série Topps Opening Day, la carte numéro 1 de 1998. Tony Gwynn qui a marqué, disons-le, son époque dans le baseball majeur et je reviendrai sur ses statistiques, Marc. C'est évidemment en l'honneur de ce début de saison, historiquement avant des années 2000, c'est à Cincinnati que ça... Donc, tu as décrit quelques matchs à Cincinnati lors de ces... dont un célèbre lors du décès de John McSherry, que je pense qu'on s'en rappelle trop bien, malheureusement. C'est la première carte du premier ensemble d'indépendants Topps Opening Day. Auparavant, c'était un sous-ensemble inséré dans l'ensemble régulier de Topps. Il y a 165 cartes qui font partie de cet ensemble. Il y a 32 membres du Temple de renommée, dont Tony Gwynn, et 6 joueurs des Expos qui sont inclus. Je vais te les nommer, Marc. Vlad, Grazilanek, Henri Rodriguez, Mike Lansing, David Segui et Rondell White. Et dans le cas de Tony Gwynn, Marc, j'espère que tu es bien attaché, il a joué longtemps. Si tu veux avoir la série complète, attache ta ceinture, c'est plus de 14 000 cartes sur Tony Gwynn qui ont été produites au fil des années au sein de diverses compagnies. Donc, sélectionnez-les là, de façon judicieuse. Tony Gwynn, Marc, on dit toutes sortes d'anecdotes sur lui, puis moi je m'amuse à regarder un petit peu ce qui se fait sur le plan historique, mais je pense qu'il n'y a personne qui illustre à quel point Tony Gwynn était bon. Il n'y a personne qui l'illustre aussi bien que Greg Maddux quand il parle de la façon dont il était capable de déséquilibrer tous les frappeurs du baseball majeur, sauf Tony Gwynn.
C'est une machine. C'est une machine à frapper. Il a révolutionné la manière de frapper. C'est lui qui a commencé, Alain, à regarder des vidéos. Tu sais, à une certaine époque, là, pas si lointaine, Alain, là, je sais que ça ne rejeunira pas, là, mais... c'était du bêta, c'était du VHS, là, les cassettes. Là. Ben lui, là, il demandait à son épouse, assure-toi d'enregistrer des matchs. Puis là, ben après, ben, il a commencé à décortiquer son élan via la vidéo, chose qui se faisait pas vraiment. C'est-à-dire, ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est comme ça. Et c'est un art. Moi, écoute, j'ai pas énormément de souvenirs, Alain. Je parle d'objets souvenirs. Tu sais, je suis pas un collectionneur tant que ça, mais ma balle de Tony Gwynn, elle a comme une petite valeur importante pour moi. Il a tellement représenté. Je l'ai joué avec son frère Chris. Il lui ressemblait beaucoup d'ailleurs physiquement. Mm-hmm. Un autre excellent frappeur. Et évidemment, ben j'étais très heureux d'être au Stade Olympique lorsqu'il a réussi son 3000e coup sûr. Mm-hmm. Et Alain, juste une petite anecdote comme ça, je me souviendrai toujours parce que, bon, c'était une époque où les expos n'attiraient pas tant de monde que ça.
Ouais.
Et on espérait, chez certains employés des expos, qu'on puisse peut-être remplir la section derrière le premier but. Parce que, tu sais, il frappait beaucoup de simples, Tony Gwynn, ça aurait pu être un double, un simple.
Ben ouais.
Mais tu comprends ce que je veux dire? Et effectivement, il a frappé un simple. Et lorsque tu vois des images de ce coup sûr-là, ben là, on monte, évidemment, de la caméra du troisième but, ben on monte Tony Gwynn avec des estrades vides en arrière. Moi, ça me fait toujours mal au cœur de voir ça parce que je me suis dit, ça aurait été le fun d'avoir un peu de monde, mais ça reste que les gens qui étaient présents au stade, je crois, mais tu s'en souviens encore.
Et juste à dire, bon, je vais terminer avec ça, Marc. Pour l'ensemble de sa carrière, si on fait une moyenne sur 162 matchs, là, on peut décortiquer son MPP, sa moyenne au bâton. Mais une statistique qui se démarque, je pense, c'est que sur 162 matchs, sa moyenne de retrait sur des prises, c'est 29.
Ah non, c'est... Donc, les meilleurs lanceurs au monde.
Ouais. Ça t'étonne avec les tendances actuelles. Donc, voilà, Tony Gwynn qu'on met en évidence. Alors qu'on s'apprête à amorcer la saison 2025 dans le baseball majeur.
Alain, c'est le moment de souligner notre partenaire principal, le Plan de Match. Et il y a du nouveau. Non seulement Plan de Match, magnifique boutique où je me retrouve à Boucherville. C'est le début de la saison de baseball. N'oubliez pas, si vous voulez vous équiper. Et évidemment, bon, venir frapper. Il y a des cages de frappeurs, des cours privés. Il y a toutes sortes de choses ici à Plan de Match à Boucherville. Mais depuis le 22 mars, samedi 22 mars, nouvelle boutique aussi au Saguenay. Alors, deux boutiques Plan de Match maintenant au Québec, Boucherville. Et Saguenay, c'est extraordinaire. Donc, les gens dans la belle région du Saguenay, ben, allez faire un tour à Plan de Match. Et je vous rappelle aussi la meilleure façon de nous rejoindre ou à faire des informations sur notre balado. Allez visiter notre site internet www.comptecomplet.com.
Marc, on va continuer avec ce qui s'est passé dans le camp d'entraînement. On va parler d'une couple de Québécois, Édouard Julien. Marc, la porte s'ouvre peut-être. Brooks Lee, placé sur la liste des joueurs blessés pour commencer l'année. Semble-t-il que c'est lui, quand on regardait des projections de formation partante pour les Twins, Brooks Lee apparaissait au deuxième but. Donc, c'est une porte qui s'ouvre pour Édouard Julien, qui a connu un très bon camp d'entraînement.
Exact. Alors là effectivement, là, je pense qu'Edouard savait là qu'il avait qu'il devait avoir un bon camp, devait encore une fois, et même s'il a connu du succès déjà dans le baseball majeur, faut que tu prouves année après année que tu y appartiens, que il a coupé les retraits sur des prises, Alain. On sait que c'était un des problèmes l'année dernière dans le cas d'Edouard Julien. Et là, ben effectivement, il luttait contre Brooks. Donc, bonne nouvelle pour Edouard. Moi, il semble être en confiance un peu plus. Mm-hmm. Évidemment, j'ai pas parlé à Edouard, là, mais juste par son langage corporel, tu as l'impression qu'il mm-hmm. est plus confortable. Il est plus à l'aise, plus en confiance. Alors, on espère évidemment que ça va être le cas et qu'Edouard va pouvoir produire ouais. Et jouer de façon régulière dès le début de la saison.
Le changement de l'instructeur des frappeurs, Marc, va peut-être l'aider. Il était mélangé l'année passée, puis je pense qu'il y avait une philosophie qui correspondait pas à l'approche d'Edouard Julien. J'ai l'impression que de ce côté-là, Marc, pas qu'il est pas bon celui qui était là d'avant, mais il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est perdu.
Et Alain, tu soulignes un très, très bon point, parce que il faut comprendre que tu sais, il y a une multitude de philosophies, d'approches au bâton, mm-hmm. Ça veut pas dire que si toi, ça fonctionne pour toi, Alain, que ça va fonctionner pour moi. Tu comprends? C'est très différent, c'est très personnel. Mm-hmm. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on enseigne à un jeune ou un joueur, que ce soit un jeune ou un joueur professionnel, peut dire, écoute, là, je dis n'importe quoi, là, mais mettons, monte tes mains beaucoup plus haut. OK? On aimerait ça que tu montes tes mains. Là. Ça serait bon pour ton élan. Puis le joueur, il monte ses mains, mais il ne le sent pas. Tu sais, t'arrives là, puis je suis pas confortable. Mm-hmm. Je me sens pas bien. Ça marchera jamais. Mm-hmm. Tu comprends? Ça marchera ouais. jamais. Alors, il faut que tu travailles avec le joueur. OK, t'aimes les mains basses? Là, c'est des exemples que je donne, là. Mais tu sais, mm-hmm. t'aimes les mains basses? OK, on va essayer de travailler avec tes mains basses, mais peut-être changer quelque chose. Tu comprends ce que je veux? Changer quelque chose ouais. d'autre. Et parfois, tu as des... Tu sais, l'idée est bonne derrière, mais ça fonctionne juste pas avec ce joueur en particulier. Mm-hmm. Alors que, vois-tu, il est rendu, l'instructeur dont tu fais mention, il est rendu avec les Blue Jays de Toronto. Puis là, ben on oui, dit, oups! Ouais. T'sais, tout le monde connaît un bon camp en attaque, une nouvelle philosophie. Bon, alors, c'est comme ouais. ça que ça fonctionne. Tu peux être un très, très bon instructeur de frappeur avec certains joueurs, mais ça ne colle pas pour toutes sortes de raisons et qui ne sont pas mauvaises, les raisons, mais que ça va coller à d'autres. Alors, là, il s'agit de trouver le bon fit, là, si vous voulez, là, avec une organisation. Donc, effectivement, c'est un point important qu'il faut souligner là, dans le cas d'Edouard.
Oui. Et il y a deux choses, Marc, là-dedans. Tu parles de confort dans ta position, effectivement. Tu sais, Matt Olson, qui a les deux mains par-dessus le marbre,
il n'y a personne de pareil, là.
Ben, c'est ça. Je veux dire, tu peux pas avoir la même philosophie avec Stephen Kwan qu'avec Kyle Schwarber.
Puis, je vais te donner un exemple, Alain, que j'ai vécu ouais. moi-même. Reggie Smith était instructeur ouais. des frappeurs avec les Dodgers. Ouais. Et Reggie Smith allait parler à Mike Piazza et Eric Karros, deux frappeurs droitiers de puissance. Là, ils s'en venaient me voir, moi, puis Tony Gwynn, deux frappeurs gauchers qui
faisaient leur tête. Ouais.
Fait que c'est sûr que je ne pouvais pas développer le même type d'élan qu'un Mike Piazza ou d'un Eric Karros ou d'un Raul Mondesi. Alors que, tu sais, nous autres, on est un style qui est très ouais. différent, qui n'est pas du même côté. Puis, c'est pas pareil, frappeur droitier puis gaucher, là, en tout cas. Tout ça pour dire que. Ouais. Alors. C'est sûr que ça colle mieux. Ça colle, Reggie Smith, tu te rappelles de Reggie, Alain? Là, ça collait plus à Eric Karros et à Mike Piazza. Tu comprends ouais. que... Ouais. Moi, c'est avec Tony Gwynn que j'aurais voulu travailler.
Oui. Ouais. Puis, je veux juste finir, Marc, le confort de position. Il y a un très bon frappeur qui avait dit, c'est son premier conseil, installez-vous confortablement au marbre. Puis, ça me fait tellement rire parce que là, c'était Rod Carew. Je veux dire, lui, voilà. il se sentait confortable dans sa position. Il n'y a personne qui pouvait s'installer comme lui.
Il n'y a personne qui a jamais imité Rod Carew après.
Mais non, c'est ça.
Mais alors c'est ça. Alors, ça, c'est la première chose. Il faut que tu sentes confortable dans ce que tu fais parce que, Alain, c'est de développer de la vitesse. C'est ça qu'on veut avec ouais. notre élan. C'est pas d'être fort, ouais. c'est d'être vite dans notre élan. Puis, si tu n'es pas confortable avec quelque chose, c'est sûr que ça ne marchera pas.
Bon, deux autres Québécois. Otto Lopez, Marc. L'année passée, le meilleur war parmi les joueurs de position de l'équipe. Il n'a pas eu un très bon début. Depuis deux semaines, c'est le meilleur frappeur de l'équipe avec les Marlins.
C'est ça le camp d'entraînement, Alain. Vraiment, il en arrachait au début, effectivement. Là, c'est 10, ouais. 12, 15, 20 premières présences. C'était difficile. Après ça, ouais. ça a débloqué. Écoute, là, ouais. Je te dirais que lui et Alcantara, là, ce sont les deux... Bonne nouvelle du côté des Marlins. Le reste, ça va être épouvantable. Quelle organisation qui n'est pas... en tout cas, selon moi, là, qui fait, je dirais pas fait honte au baseball majeur. Ouais. C'est pas une organisation... en tout cas, selon moi, c'est pas une organisation digne du baseball majeur. Donc, au moins, ils ont Otto Lopez et ils ont Alcantara.
Oui, Xavier Edwards aussi qui...
Oui, non, mais ils ont quelques bons joueurs, mais... dans l'ensemble, là, ça va être difficile.
Oui. Abraham Toro, Marc, il y avait beaucoup de compétition. Comment ça va? Là, on a su que Campbell va faire le club. Ça tasse un peu pas mal de monde. Grissom a été retourné dans les ligues mineures. Lui doit avoir hâte à l'année prochaine. Le gars de trop, c'est peut-être Trevor Story dans le casse-tête des Red Sox de Boston. Présentement, c'est peut-être lui le gars de trop, mais Toro a fait tout ce qu'il pouvait faire pour faire l'équipe.
Exact. Et tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux contrôler, il l'a fait. Il l'a bien fait. Alors, tu sais, frappeur, moi, je me répète tout le temps, mais Toro, là, écoute, frappeur ambidex, peut jouer à multiples positions et bien le faire. Fait que c'est un gars là qui a une belle valeur. Et là, ben c'est un camp d'entraînement du début à la fin, il a été bon. Les Red Sox vont être bons. Et tu parlais de Campbell, tu parlais des prospects. C'est drôle, hein? Je regardais là. Parce que moi, j'aime beaucoup ce que je vois des Red Sox là en passant. Oui. Là, puis, je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent que Trevor Story va débloquer cette année, alors que d'autres disent effectivement un peu comme toi, est-ce qu'il est pas le gars de trop? Donc, on verra quel genre de Trevor Story on va avoir. Mais tu sais, les trois gros prospects là, qu'on a vus avec les Red Sox, là, tu m'as parlé de Campbell, puis meilleur qui est là-dedans. Je regardais Alain, c'est trois gars qui viennent du passage de Shane Bloom avec l'organisation. Fait que, tu comprends, on a laissé aller Bloom, il est parti, il est rendu avec les Cards maintenant, pardon, mais il va avoir laissé sa trace avec les Red Sox, là, et son défi était de rebâtir justement un réseau de filiales, Et là, les Red Sox se retrouvent avec, écoute, parmi les trois meilleurs joueurs d'avenir du baseball. Là. Et regardez. En même temps. Alors, tu sais, je veux dire, c'est carrément dans l'air Shane Bloom qu'on les a repêchés.
Oui. Chez les Red Sox, c'est une surprise, Marc. Un nom qu'on n'a pas entendu depuis un petit bout, Sean Newcomb. Il y a quelques blessés chez les lanceurs partants. Jolito, Bayo ne commenceront pas l'année. Ça laisse des ouvertures. Sean Newcomb, Marc. Moi, je me rappelle de lui avec les Braves d'Atlanta. C'est un joueur de première ronde.
Ouais.
Il avait du potentiel. Sa carrière a déraillé pour des raisons. Oui, il y a eu des blessures. Mais rappelle-toi, ça a commencé à dérailler à la suite de propos qui avaient été rapportés sur les réseaux sociaux alors qu'il n'était pas encore dans le baseball majeur. Des propos homophobes, on va le dire. Là. C'est carrément ça. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a affecté, Marc, mais disons que la coïncidence, c'est assez frappante. Il n'a jamais été capable de se réétablir par la suite. Là, les années ont passé. Il est rendu dans la trentaine. Il y a un bon camp d'entraînement. Moi, je l'aimais beaucoup quand il était avec Atlanta. Je ne sais pas si ça va être c'est un pansement à court terme là, dans le cas de Newcomb. S'il a remis de l'ordre un petit peu dans ses priorités, je trouve que c'est pas une mauvaise option moi, pour Boston.
Oui. Tu as parlé d'Abraham Toro, Alain, pendant qu'il a tout fait, qu'il a tout fait au camp d'entraînement.
Ouais.
Il n'a rien donné, Alain. Il n'a rien donné au camp d'entraînement. Écoute, je pense en 14 manches, il a donné deux coups sûrs. Mm-hmm. Je veux dire, ou deux points. Ou en tout cas, j'ai vu rapidement ses statistiques. Là. Écoute, c'est...
Ouais.
Donc, tu sais, choix de première ronde, tu l'as dit. Donc, évidemment, des habiletés là qui sont de toute évidence qui sont là. Et oui, pour répondre à ta question, c'est sûr que ça l'a affecté. C'est ses problèmes hors terrain où, en fait, ça a fait en sorte que ce gars-là a complètement perdu le focus sur le baseball. Et là, il est à la bonne place. 31 ans, effectivement, il est à la bonne place, peut-être mentalement. Tout le monde cherche des bras. Son camp d'entraînement a été excellent, mérite sa place. Alors, tu l'as dit, quelques blessés, on manque de profondeur. Walker Buehler, ça reste fragile. Alors, tu sais, c'est des options, le fun, intéressantes pour une organisation comme les Red Sox.
Absolument. On va voir... Mais c'est sûr qu'on s'est placé de façon à ce que les réflecteurs soient branchés sur cette équipe-là au cours de la prochaine saison. Et d'ailleurs, Marc, c'est dans la question de la semaine qui est reliée évidemment aux Red Sox et dans l'Est américaine. La question est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. C'est pas compliqué, là. Qui va remporter le titre de la section S de la Ligue américaine? Si on vous demande d'envoyer vos commentaires sur cette question, sur notre page Facebook, facebook.com/complet, compte complet balado. Il y a notre site internet directement, comptecomplet.com. Quant à nous, nos prédictions, on va les garder pour nos émissions d'avant-saison, Marc. Ce sera pas tellement long. Je peux déjà vous le dire, là, c'est très bientôt, mardi, mercredi, qui sont diffusés. On aura plus de détails, évidemment, à la fin de ce balado. présenté à RDS. Alain,
ce qui est important de comprendre là-dedans, là, c'est que honnêtement, dans cette division-là, il y a quand même potentiellement quatre équipes qui pourraient aller chercher là, 90 victoires, 11 victoires. Je parle pas de 97, 98 victoires. Là. Je te parle, tu sais. Alors, là, il y a un mélange. Ça peut être très serré cette année là, dans cette division-là.
Oui, je comprends que c'est les Rays que tu exclus du groupe de 90 victoires là, pour cette année. Même si ces Snoro ont l'habitude de nous jouer des petits tours, mais...
mais cette année, je suis moins certain.
Le citron, peut-être que cette année, il en reste un peu moins qu'il en restait. Donc, vos prédictions, qui va terminer premier? Et on vous invite donc à vous prononcer là-dessus, sur nos différentes plateformes. C'est notre segment au cercle d'attente et on vous encourage à la lecture et la lecture, pourquoi pas, portée sur le sport et sur le baseball. Baseball Bob, c'est exactement l'endroit où vous devez aller. www.baseballbob.ca. Des livres écrits. Bob McDuff, qui est notre bon ami à Trois-Rivières, là, qui a conçu plusieurs livres destinés aux enfants avec des histoires passionnantes sur le baseball. Et on l'a mentionné à plusieurs reprises, il y a plusieurs livres de plus en plus qui sont disponibles, écrits sur le sport et sur le baseball. La littérature là, s'enrichit au Québec sur ce sport. Donc, on vous invite, et pourquoi pas vous initier avec les Bob, Baseball Bob, livres de notre ami Bob McDuff. Et on va s'arrêter sur notre portrait de certaines attentes sur Aaron Judge. Aaron Judge marque, je crois, premier rond des Yankees de New York. C'est un athlète, dans le vrai sens du mot, excellait au football, pas de misère à le croire. Au basketball, pas de misère à le croire non plus. J'aurais pas voulu être sous le panier avec Aaron Judge, pas seulement grand. Il est bâti, tu l'as déjà vu en personne, tu peux en témoigner, Marc. Et évidemment, il a choisi le baseball et ça a été son bon choix. D'arriver dans le baseball majeur, ça n'a pas été facile, Marc. Rappelle-toi, en 2016, c'est environ la moitié de ses présences au bâton qui se soldait par des retraits sur des prises. Deux fois dans sa carrière, Marc, moi, c'est ça qui m'étonne dans sa carrière. Deux fois, il a réussi à s'ajuster. À la suite de sa première saison, et rappelle-toi, Marc, après son année recrue, rappelle-toi, les deux années suivantes, avec la difficulté avec les balles rapides, les circuits, mais plus souvent qu'autrement au champ opposé, t'es plus capable de tirer la balle. Puis là, oups, depuis deux ans, il est redevenu un des meilleurs frappeurs du baseball majeur. Tu parles d'ajustement, je pense que c'est un bel exemple.
Écoute, puis là, tu combines force, puissance, physique imposant avec un gars qui est capable de s'adapter, de s'ajuster. Là, ça donne le joueur que l'on voit depuis quelques années avec les Yankees. Il est tellement, il est tellement bon dans tout ce qu'il fait. Ce qui est important, c'est que là, même il a évité les blessures parce que on se demandait si un corps comme ça, c'était bon pour le baseball, dans le sens que est-ce que physiquement, c'est un sport qui est finalement il a réussi à faire, contrairement à son coéquipier Giancarlo Stanton, là, mais ça reste que Judge, c'est une très belle histoire. C'est l'histoire d'un athlète qui est allé évidemment à l'université. Il est arrivé dans le baseball majeur à 25 ans, là. Judge est arrivé un peu comme on faisait à une certaine époque. T'arrivais dans le baseball majeur, tu passais tes années universitaires, tu passais tout dans la ligue mineure, puis là, t'es arrivé à 24, 25 ans dans le baseball majeur. Là, évidemment, ça a changé beaucoup dans le baseball moderne où t'as des jeunes qui arrivent plus tôt. Mais tu sais, l'exemple parfait d'un athlète complet qui a joué au football, qui a joué au baseball, qui a joué au basketball, tu sais, fait que. Moi, je trouve que c'est Aaron Judge est un exemple à plusieurs niveaux d'excellence.
Oui, ça va l'aider d'être au champ droit. Je pense que c'est le genre de décision que les Angels auraient dû prendre avec Michael Trout bien avant, je pense. Et Marc, il est allé à l'université, il était repêché à l'issue des écoles secondaires par les Aces d'Oakland, l'équipe du coin. Mais tardivement. On savait que les chances de le mettre sous contrat étaient assez minces, en fait, tellement loin qu'aujourd'hui, il ne serait pas repêché. Là. Probablement 32e ronde, là, dans le cas des Aces d'Oakland, c'était en 2010. Marc, la semaine passée, on a parlé des problèmes au monticule de certaines équipes, des blessures, notamment des Rangers du Texas. Ben, comme par hasard, on a mis sous contrat un vétéran qui était encore disponible. C'est Patrick Corbin. Je peux pas dire qu'il s'est distingué au cours des dernières années, sinon par le fait qu'il n'a pas été blessé et qu'il n'a pas manqué de tour au monticule. Donc, il va donner des manches.
Il s'est distingué par le fait que c'était pas un des pires contrats signés, mais sinon, le fait que Ben écoute, c'est correct. Lanceur gaucher, je veux dire, c'est. Puis là, ben, on en a vu une couple, hein, des vétérans lanceurs là, signés tard parce que inévitablement, les blessures auquel entraînement, on veut un vétéran. Il y a peut-être des jeunes lanceurs, des jeunes bras dans notre organisation qui ont peut-être pas réussi à se tailler une place encore. On veut les faire patienter un peu. Alors, c'est pas normal. Même, je vous dirais que c'est la norme là, de voir ces vétérans lanceurs-là signés tard là, au mois de mars.
Marc, il y a Cal Gibson, ça va à Baltimore. Là aussi, on a des problèmes, encore des blessures. C'est Grayson Rodriguez, évidemment, qui est au centre des préoccupations des Orioles au Monticule. Donc, Gibson revient à Baltimore. Il n'est pas en terrain inconnu.
Exact, exact. Et ça vaut quelque chose. Le seul élément dans ça, Alain, c'est que là, il est tard en mars. Puis là, il faut que tu rebâtisses un peu. Tu as beau être entraîné chez vous avec un, tu sais, peu importe. Mm-hmm. Ça reste que là, tu peux pas me mettre carrément ces gars-là dans rotation en commençant. Mm-hmm. Donc, il va y avoir un petit processus, évidemment. Mais Alain, combien de fois qu'on le dit, là, surtout dans le baseball d'aujourd'hui, tu as besoin de bras, tu as besoin de lanceurs. Puis là, ben un ou deux tombent au combat. Là, soudainement, on est mal pris. Tu sais, tu regardes les Yankees, là, je veux dire, ils sont un peu plus mal pris. Les Yankees sont peut-être à une blessure près à un autre lanceur, de se dire, hey, là, on est vraiment dans le trouble. Tu sais, fait que t'en as besoin de lanceurs. Là. Alors, c'est correct. Moi, j'ai pas de problème. Sauf que c'est ça teste la profondeur de l'organisation en termes de lanceurs partants, surtout.
Et je vais y aller, pas d'une prédiction, Marc, mais je pense... Tu sais, on parlait des Yankees au Monticule, peut-être besoin de profondeur. Là. Ils vont affronter les Rays dans pas long. Si ça leur tente d'avoir Jordan Montgomery, là, je pense pas que ça va leur coûter si cher que ça.
Ben, c'est, non, parce que je suis convaincu que les Diamondbacks sont prêts à payer une partie du salaire. Écoute, il est en relève, là. Il n'a pas fait l'équipe comme partant à Jordan Montgomery. Lui, changement d'air serait probablement très bénéfique. Mais encore là, moi, là, si je suis les Diamondbacks, là, tu l'as dit tantôt, là, c'est une équipe qui pourrait surprendre dans la nationale, certes dans la division Ouest, pourrait même talonner les Dodgers. On parle souvent de profondeur au Monticule. Je sais qu'il coûte cher, mais tu l'as, puis si tu t'en débarrasses, il faut que tu payes au moins le trois quarts du salaire. T'es peut-être aussi bien de le garder, en tout cas. On verra ce que les Diamondbacks vont faire, mais on est en train de se bâtir une équipe pour aller en série, non seulement faire les séries, mais aller loin en série du côté de l'Arizona.
Oui, la préoccupation des Yankees, Marc, serait peut-être aussi la masse salariale. On veut plus là, dépasser le seuil, pas trop en tout cas, de taxes de luxe. Là. Les Dodgers vont en payer une beurrée encore cette année.
Oui, mais Alain, les Yankees moi je pense qu'avec la division Ouest cette année, puis les Red Sox, la façon dont ils sont partis, d'après moi, on va dépenser peut-être un petit peu plus chez les Yankees qu'on voulait.
Peut-être. Une transaction intrigante, Marc. Nolan Jones qui retourne à Cleveland du Colorado. Parle de bon athlète, c'en est un bon, ça. Il revient là où il avait commencé sa carrière professionnelle. Ce qui est un peu ironique, c'est qu'il a été échangé pour Tyler Freeman. Du côté des Rockies, on aime sa polyvalence. C'est carrément ce qu'on recherchait. Dans le cas de Freeman, les Rockies recherchent beaucoup des joueurs qui se rendent sur les sentiers. On s'est dit, il y en a un qui va mettre la balle de l'autre côté à un moment donné au Colorado. Ça me prend des gars sur les buts lorsqu'on va frapper des coups de circuit. C'est pas mêlant, c'est vraiment la pensée qu'on veut chez les Rockies présentement. On a quelques jeunes qui ont de la puissance, je pense à Tolia, puis à qui on veut donner du temps. Et dans le cas de Nolan Jones, il y a deux ans, Marc, on pensait que ses statistiques étaient peut-être au-dessus de ce qu'il aurait dû avoir, le facteur chance qu'on dit toujours, mais c'est un bon athlète. Jones revient à Cleveland, c'est un gars du nord-est américain, c'est sûr qu'on va le faire jouer régulier ce gars-là. Donc du côté des Rockies, on est allé chercher quelqu'un qu'on voulait contre quelqu'un qui va combler un besoin à Cleveland. Et ironiquement, Marc, c'est deux gars qui se connaissaient très bien, Freeman et Jones, c'était deux amis en fait.
Oui, donc, effectivement. Deux très bons athlètes, puis ce que je te dirais, Nolan Jones a tout pour réussir en termes de talent, tu sais, je veux dire, il court, il frappe, il est un des meilleurs bras comme voltigeur. Là, il faut mettre tout ça ensemble. Et lui, un changement d'air, ça va lui faire du bien. C'est évident, là. Fait que je pense que ça va être gagnant-gagnant, cette transaction-là. Mm-hmm. Mais moi, je trouve que le potentiel de Nolan Jones est quand même assez haut. Et si tout débloque, là, ça peut devenir un très, très bon joueur de baseball. Ouais. Très talentueux. Tantôt, on parlait d'Aaron Judge, là, d'un gars qui peut faire tout là, à tous les sports. Nolan Jones était un autre là, qui a excellé dans différents sports. Alors, Content de voir ça, moi, parce que les Rockies ont une pas pire équipe, évidemment. Mm-hmm. Enfin, je dis une pas pire équipe. Ils ont de très bons athlètes.
Oui.
Mettez ça ensemble, ça t'sais, ils lutteront pas pour la première place, là. Mais ils ont de bons athlètes. Nolan Jones en faisait partie. C'est un petit peu le portrait qu'on recherche d'ailleurs du côté des Rockies. Mais c'est ça, un changement d'air va faire du bien. Il va se retrouver. Parce que Cleveland va avoir besoin d'attaque, Alain. On va avoir besoin d'attaque, là, parce que on a perdu un gros joueur de premier but, puis ça se remplace pas facilement, ça.
Oui, Marc, je peux me permettre une remarque dans le cas de Nolan Jones. On parle d'athlète, c'est un gars qui a joué au hockey, qui excellait au hockey. Il a décidé de plus jouer à un moment donné en raison de commotion cérébrale. Puis comme joueur, si vous voulez savoir de quoi avait l'air Mark Griffin, ben vous regarderez jouer à Nolan Jones. C'est à peu près le même profil, le même genre d'athlète.
Oui, j'aurais aimé ça avoir son physique. Il est un petit peu plus grand et costaud, mais... gentil, très gentil de ta part.
Mais je suis pas loin de la vérité pour t'avoir vu jouer au baseball, là, puis un petit peu au hockey également. Marc, là, ça s'en vient, et je veux pas qu'on fasse de prédictions, mais est-ce qu'il y a des choses que tu vas observer, des tendances en vue de la saison 2025 dans le baseball majeur?
Ben, écoute, chose certaine, Alain, je sais qu'un des problèmes, c'est la parité. On a parlé des Dodgers tantôt qui dépensent, puis que les Yankees sont un peu nerveux de vouloir dépenser un petit peu plus. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que, on a parlé des Marlins tantôt, que je trouve que c'est pas une organisation qui suit, mais ça reste que je regardais division par division. Il va y avoir des belles luttes. Il va y avoir des très belles luttes, et parfois même des luttes à 4 et même 5 équipes. Tu sais, je regarde les centrales. Enlève les White Sox cette année, mais ils s'en vont dans la bonne direction, là, dans le sens que, ils ont un paquet de jeunes. Mais je regarde la centrale, la nationale. Tu sais, je sais que les Cards, c'est plus difficile, je pense pas qu'on va avoir une équipe qui va aller chercher, tu sais, 95 victoires. Ça va jouer dans le 88-89, peut-être, victoires. Fait que si t'es 88-89 victoires, tu peux peut-être te ramasser avec 4-5 équipes qui vont lutter. Fait que, ça, je trouve ça le fun, là, tu sais, qu'il y a cette, tu sais, qui peut avoir ces luttes-là. Tu sais, même les Dodgers, on a parlé des Diamondbacks, tu sais. Les Dodgers, oui, tout le monde prévoit 100, 105 victoires peut-être, mais Diamondbacks peuvent peut-être aller en chercher 96, 17, là. Ils ont ce type d'équipe-là. Ouais. Les Giants, ça va être déjà un petit peu mieux. Je pense pas qu'on va se rendre là, mais ça reste que c'est intéressant. Les A's d'Oakland sont pas mal meilleurs que tout le monde le laisse croire, selon moi. En fait, les A's d'Oakland, attention, ce sont plus les A's d'Oakland, là. Ils vont jouer à Sacramento, mais ça reste que, les Astros sont un petit peu moins bons. Est-ce que les lanceurs, les Mariners vont tout faire? Tu comprends? Ce que je veux dire, c'est que j'aime le fait que là, on va avoir quand même des vraies courses cette année. Je pense pas qu'aucune équipe va réellement se détacher dans une division en particulier.
Ouais, au-delà des prédictions et des forces des équipes, Marc, moi, j'ai l'impression que ce sur quoi je vais m'attarder, c'est vraiment la tendance vers la jeunesse. Tu sais, on a parlé au camp d'entraînement, on a vu plusieurs matchs, puis en 2 matchs de curling, j'ai quand même essayé de regarder un petit peu ce qui se passait dans le monde du baseball, là. Puis, tu sais, la jeunesse, les jeunes athlètes, je pense qu'on n'a pas encore pris le virage complet, mais on est en train de le prendre dans le baseball majeur. Puis, tu sais, je pense que sur le plan financier, ça va commencer à apparaître. Je donne l'exemple des Phillies. Il y a beaucoup de trentenaires dans cette équipe.
Ouais.
Autant dans les joueurs de position au monticule. Est-ce que ça va les rejoindre? Je peux dire la même chose des Dodgers. Je me demande si c'est pas l'année, à un moment donné, qu'on va prendre conscience que, peut-être qu'on serait mieux de mettre notre argent sur les jeunes. Puis, tu sais, le virage, est-ce qu'il va se faire cette année? Moi, je suis pas sûr qu'on n'est pas loin de ce moment-là. Tu sais, c'est des tendances qui se font à long terme. Mais je me demande si on ne le remarquera pas davantage en 2025. Puis ces fameuses équipes-là qui ont mis beaucoup d'argent à long terme sur des joueurs, si ça ne viendrait pas leur exploser en pleine face, je ne te dis pas que c'est à la grandeur que ça va se faire. Je te dis juste qu'il y a certaines équipes qui pourront avoir de mauvaises surprises cette année là-dessus.
Écoute, moi, je pense que le virage a déjà commencé, Alain. Puis, mais je suis d'accord avec toi, là, tu sais, de le voir, là, de le voir prendre toute l'ampleur, là, ça pourrait parce que, tu sais, Les gars comme Bobby Witt Jr., là, Eli De La Cruz, puis tu sais, c'est ça l'avenir du baseball actuellement. Là. Puis on en voit de plus en plus dans chacune des équipes. Tu sais, avant, tu pouvais les compter sur les doigts d'une main, là, ces joueurs-là. Ouais. Mais là, chaque équipe en a deux et trois. Là.
Marc, tu juste une petite parenthèse. C'est pas l'avenir, c'est le présent du baseball. C'est ça maintenant, là.
Exact. Puis, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que les Phillies ont une très, très, très bonne équipe, mais là, il faut gagner cette année. C'est un noyau qu'on n'a pas gagné. Là. Enfin, on s'est rendu en Série mondiale, mais on ne l'a pas gagné. C'est cette année. Parce que là, après ça, ça va ressembler peut-être un petit peu. On en reparlera avec Alex, là, évidemment, Alex Agostino, là, mais on a quand même une très, très bonne équipe. Mais effectivement, là, on est au début de saison. Là. Puis là, on se dit, bon, ils ont une bonne équipe, ils ont l'expérience, ils ont ci, ils ont ça. Mm-hmm. Peut-être qu'à la fin de l'année, ça va avoir fait pouet-pouet, cette affaire-là, puis que finalement, effectivement, les vétérans n'ont pas performé ou il y a eu des blessures ou tout ça. Donc, mais moi, je suis d'accord. Je trouve, puis tu sais, le camp d'entraînement, encore, m'a permis là, d'enchaîner encore plus sur ce que tu viens de dire. Parce que, tu sais, au camp d'entraînement, tu as tes réguliers qui jouent 2-3 manches les premiers matchs, puis là, on va tirer ça à 5-6 un peu plus tard. Fait que tu as l'occasion de voir les jeunes de chaque organisation, tu sais, dans les manches. Je me rappelle, je faisais partie des jeunes à l'époque, puis, tu sais, on venait jouer la 7e, 8e, 9e, tout ça, puis. Mais là, je trouvais que ces jeunes-là qui arrivaient, là, ils étaient solides, là, des noms qu'on connaît beaucoup moins, là, puis des gars. Puis là, je regardais, choix de 6e ronde d'une école inconnue, mais puis le gars, il est solide, là. Puis tu sais, mes gars sont présentants dans des collèges américains, Alain. Inévitablement, le calibre est plus fort. C'est meilleur. Les athlètes sont encore mieux préparés. Les écoles, c'est on ne veut pas comparer des époques parce que c'est difficile de comparer ça, mais le baseball a beaucoup évolué. Le côté athlétique est très présent aujourd'hui. On met beaucoup l'emphase sur l'attitude. On ne veut plus des gars qui traînent tout le monde vers le bas. Alors, c'est le fun de voir ça. Puis, c'est les partisans qui vont gagner. Là. Ce sont les partisans qui vont bénéficier de voir ce spectacle-là devant nos yeux. Le grand défi, Alain, des prochaines années, ce sont les lanceurs. Qu'est-ce qu'on fait avec les fameuses blessures, jusqu'à où on peut se rendre, on en a parlé souvent. Mais sinon, le joueur de position, il est beau à voir en ce moment-là.
Absolument. Absolument. Donc, écoutez, ça commence cette semaine. Et c'est le temps de vous présenter l'horaire des matchs de la semaine. Ben oui, ça commence à RDS. C'est une présentation de Lester. C'est le choix numéro 1 des amateurs de baseball et des casse-croûtes depuis 1931. Que ce soit au stade, entre amis, devant la télé, devant un bon match de baseball. Il n'y a rien qui bat le goût authentique de nos hot dogs et smoked meat chez Lester's. Donc, analyse des ligues américaines et nationales. Ligue américaine, vous sera présentée ce mardi. C'est à 18h à RDS2. Et le lendemain, ce sera l'analyse de la Ligue nationale à compter de 19h à RDS. Et comme on l'a fait au cours des dernières années, Alex Agostino, qui fait partie d'une équipe de recrutement des Phillies de Philadelphie, sera avec nous avec son expertise. Moi, Alain Huzureau, en compagnie de Mark Griffin, on vous y invite. Et dimanche, ce sera le début de la saison de baseball à RDS. On sera là les dimanches soirs, les lundis soirs, les mercredis également, jusqu'aux séries de championnat cette année. Et dimanche, ben, on aura un duel entre deux équipes qui sont qualifiées pour les séries de l'année passée. Les Padres de San Diego qui vont accueillir les Braves d'Atlanta. Dimanche, 19h à RDS 2. On se souhaite tous une excellente saison. Alain Huzureau en compagnie de Mark Griffin. Merci à Martin Villeneuve à la technique et qui nous enrobe ce balado à chaque semaine. On vous souhaite une excellente saison 2025. À très bientôt.
Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville. Fier partenaire de votre passion.